14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Le coup du train postal. Le même que celui que le cerveau a exécuté il y a 3 ans en Angleterre. C'est génial, il n'y a qu'à copier.
Bonjour, clin d'œil dans cette émission, vous l'avez reconnu, à Jean-Paul Belmondo, bien sûr, à qui la France rend aujourd'hui un dernier hommage. Acteur qui fut indifféremment flic et voyou et qui, à sa façon, a écrit une page du crime au cinéma. En 1969, il figurait ainsi au générique du film Le Cerveau de Gérard Oury, scénario librement inspiré de l'un des braquages les plus fous de l'histoire, l'attaque du train postal Glasgow-Londres qui s'était déroulée seulement 6 ans avant la sortie du film. Un convoi bourré de sacs de livres sterling, une incroyable opération commando conduite selon un minutage d'une précision mathématique, un butin de 2 600 000 livres, l'équivalent de 50 millions d'euros, une affaire inouïe, sans le moindre coup de feu, de quoi faire passer les assaillants du Glasgow-Londres pour des Robins des Bois modernes. Je vous raconte aujourd'hui cette affaire qui, plus de 50 ans après, fourmille encore de questions.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'attaque du train Glasgow-Londres, l'un des plus grands casses de l'histoire, attaque de légende, qui commence à l'été 1963 dans le brouhaha, les bruits de locomotives et les sifflets du chef de la gare centrale de Glasgow. Ce mercredi 7 août 1963, une intense activité règne en fin d'après-midi sur les quais de la gare centrale de Glasgow, un imposant bâtiment victorien qui trône au milieu de la cité écossaise. Le Travelling Post Office Special, le train postal spécial, est sur le départ. Des employés chargent les derniers sacs de courrier juste derrière la locomotive. La voiture numéro 2 est parfaitement identique aux autres, sauf qu'ici, un policier en uniforme monte la garde. Ce wagon, qui va bientôt refermer ses portes, renferme un trésor. 128 sacs scellés, remplis de billets de banque, 2 595 000 livres sterling, l'équivalent de 50 millions d'euros. Des sacs placés dans des armoires métalliques, faciles à repérer, ils portent tous une étiquette rouge marquée des lettres HVP pour High Value Packet, colis de grande valeur. Un trésor de livres écossaises destiné, comme le veut la loi, à être changé auprès de la Banque Centrale Britannique à Londres. En temps normal, il n'y a que 200 ou 300 000 livres dans le train postal. Mais si aujourd'hui le montant est si élevé, c'est qu'il suit un jour férié, le Bank Holiday, au cours duquel les commerçants de toute l'Écosse ont rempli leurs caisses. Ce détail n'a pas échappé à celui que la police va surnommer l'Ulsterman, en raison de son accent irlandais, cet homme de l'Ulster qui a donné le tuyau à une équipe de malfrats londoniens. L'Ulsterman a ainsi offert sur un plateau un train bourré d'argent et une proie facile. Pas de policiers à bord, aucun des 77 postiers n'est armé. Qui plus est, par mesure d'économie, la radio n'a pas été installée sur ce convoi qui, officiellement, ne transporte que du simple courrier. Le train postal quitte la gare de Glasgow à 18h50. Le convoi, tracté par la plus puissante des locomotives diesel britanniques, va rouler sans interruption pendant 640 km. Il doit atteindre sa destination, la gare londonienne de Euston, le lendemain matin à 3h59 précise. Aucun incident jusqu'aux alentours de 3h du matin, jeudi 8 août. Passé la localité de Leighton Buzzard, à une bonne heure de Londres, le conducteur de la locomotive, Jack Mills, aperçoit un feu rouge, il stoppe le convoi. Son adjoint descend sur la voie pour décrocher le téléphone d'urgence. Mais les câbles ont été sectionnés. Le feu rouge est un faux, c'est une simple lanterne alimentée par une pile. Le vrai feu a été recouvert par un gant, le cheminot n'a pas le temps de réagir, il est jeté au sol, menotté. Des hommes portant des cagoules et des casques de moto s'affairent alors à détacher la locomotive et la précieuse voiture 2 du reste du convoi. 4 hommes masqués grimpent à bord de la loco. Le conducteur est frappé à coups de matraque et coups de pied. Le plan prévoit qu'un membre du commando prenne les commandes de la motrice pour avancer un petit kilomètre jusqu'à Bridgo Bridge, le pont de chemin de fer de Bridgo. L'homme en question s'est entraîné, mais une fois au volant, il est perdu. Il ne connaît pas le fonctionnement de la machine. L'opération est en train de capoter. On réveille alors le vrai chauffeur qui, groggy et tremblant, reprend les commandes. Jack Mills restera à jamais traumatisé par ces minutes de terreur. Il mourra 6 ans plus tard sans avoir pu jamais retravailler. La locomotive et son unique voiture parcourent le fameux kilomètre pour s'arrêter sur le petit pont. Cette fois, les voleurs forcent les portes de la voiture numéro 2. Les 5 postiers à bord n'ont rien pour se défendre. Ils sont matraqués. Aucun coup de feu n'est tiré. En 15 minutes, les 128 sacs sont jetés depuis le pont sur une minuscule route de campagne. Une chaîne d'hommes masqués les charge dans 2 Land Rover et un petit camion Austin portant de fausses plaques. Le commando demande aux postiers de ne pas donner l'alerte avant 30 minutes, sinon un guetteur leur tirera dessus. L'attaque du train postal, le plus grand casse du siècle, s'est déroulée exactement comme son cerveau l'avait imaginé. La police qui se retrouve face à une opération d'ampleur inégalée, au moins une 15aine d'hommes ont participé à l'attaque, sans compter peut-être les organisateurs et les commanditaires. Beaucoup de monde, cela laisse inévitablement des traces. Ce jeudi 8 août au matin, une cohorte de policiers en uniforme et en civil arpente les abords de Bridgo Bridge, le pont sur lequel la voiture numéro 2 et ses millions de livres sterling a été dévalisée. Le wagon porte encore les stigmates de ce braquage, charnières arrachées, vitres brisées. Scotland Yard et la police locale travaillent de concert respectivement sous les ordres des commissaires Jack Slipper et Malcolm Futrell. Croyant bien faire, les employés des chemins de fer ont réparé le feu rouge et détruit des indices. Les enquêteurs collectent toutefois une poignée de billets de banque ainsi qu'une matraque. Les traces de pas sont nombreuses, mais les empreintes digitales introuvables. Et à l'époque, l'ADN n'existe pas. Le commissaire Futrell est intrigué par l'ultimatum donné par les braqueurs aux chaumineurs. Ne pas bouger avant 30 minutes. Le temps suffisant peut-être pour rejoindre une base arrière. Un rayon est alors tracé sur une carte. L'intuition du policier est bonne. 5 jours après l'attaque, 13 août, la ferme de Liverslade, à une 40aine de kilomètres, est localisée. Une ruine achetée 2 mois auparavant par un londonien pour en faire une résidence secondaire. Les gens du coin ont vu passer récemment 2 Land Rover avec des hommes portant des salopettes de maçons et de peintres. Des ouvriers qui, semble-t-il, s'étaient tout de suite mis au travail en obstruant toutes les fenêtres de la masure. Celle-ci est désormais déserte, mais regorge d'indices. Des sacs postaux vides, une bouteille de ketchup, des billets de Monopoly et le jeu avec sa case prison. La police apprendra plus tard que la ferme devait être incendiée, mais que l'homme chargé de cette mission a préféré déguerpir. La ferme de Liverslade, le repère des assaillants, n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Les hommes de Scotland Yard vont pister le fameux acheteur de la maison et tomber sur un avocat londonien, Maître Brian Field. Malgré son jeune âge, 29 ans, Maître Field a déjà une réputation sulfureuse. Ses clients appartiennent tous à la pègre. Il est soupçonné de servir d'intermédiaire pour les braquages. Dans l'affaire du train postal, l'avocat aurait reçu quelques mois auparavant la visite du fameux Ulsterman, une taupe qui a ses entrées à la poste écossaise. Maître Field aurait ensuite balancé l'affaire à certains de ses clients braqueurs. L'avocat est placé sous surveillance quant aux empreintes relevées dans la ferme, notamment sur la bouteille de ketchup et le jeu de Monopoly. Elle parle des traces qui mènent à des figures connues de la police et de la justice. 3 semaines après le casse, un désormais Roger Cordray, fleuriste à Bournemouth, une station balnéaire du sud de l'Angleterre, est le premier à être arrêté. Il était en train d'écouler des billets de 10 livres. À partir de cette arrestation, l'ensemble du gang va s'écrouler comme un château de cartes. Le 14 septembre, l'avocat Brian Field est interpellé à son domicile. Les autres membres suivent. Fin septembre 63, Scotland Yard a le sentiment d'avoir bouclé l'enquête. Des investigations aussi rapides que le braquage du train postal. Les policiers ont sous la main une 15aine d'hommes. Il y a là notamment le coiffeur et colosse Gordon Goody, le décorateur Jimmy Hussey, dit Big Jim, qu'on croise parfois dans des dossiers de stupéfiants. Roy James, l'homme qui dirigeait la récupération des sacs à Bridgo Bridge, arrêté après une course-poursuite sur les toits de Londres. Et encore le dénommé Ronald Arthur Briggs, Ronnie Briggs, qui sera bientôt le visage le plus connu du gang, illustrant à lui tout seul l'épopée du Glasgow-Londres. Scotland Yard est satisfait, même s'il manque à l'appel les plus gros poissons. L'informateur grâce auquel un tel coup a pu être monté, il manque aussi dans cette galerie de portraits le cerveau. Les policiers ont leur petite idée sur la question. Il pourrait s'agir d'un certain Bruce Reynolds, mais l'homme vient de s'évaporer avec femme et enfant. Quant aux millions envolés, ils semblent à tout jamais perdus. 13 hommes au total vont comparaître devant une cour criminelle pour y être jugés. Au regard de l'émotion provoquée par cette attaque, la justice britannique sera impitoyable. Ce 20 janvier 1964, le procès du Glasgow-Londres s'ouvre devant les assises d'Aylesbury, capitale du comté du Buckinghamshire. Les audiences vont se succéder pendant 3 mois sans apporter d'éléments capital sur l'enquête. Les accusés font profil bas et ne délivrent aucune confidence digne de ce nom. C'est tout juste s'ils se connaissent. La loi du silence règne dans la salle, chaque jour bondée de curieux et de journalistes. L'accusation décrit l'attaque du train comme un crime d'une violence sordide, même si aucun coup de feu n'a été tiré. Une entreprise inspirée par une vaste avidité. Mi-avril, le verdict tombe. Un seul acquitté, un dénommé John Thomas Daly, dont les empreintes étaient sur le jeu de Monopoly, un jeu qui appartenait en fait à son beau-frère, le cerveau en cavale, Bruce Reynolds. Il jouait souvent chez lui. Pour les autres, les peines s'échelonnent entre 3 ans et 30 ans de prison. 7 malfaiteurs écopent de cette peine principale. Ce procès en demi-teinte et ce verdict sévère est loin de mettre un point final à l'affaire du train postal. 4 mois après la sentence, la presse fait ses gros titres avec l'évasion d'un des condamnés de la prison de Birmingham. 3 hommes sont venus le sortir de sa cellule. Charles Wilson se réfugie au Mexique. Moins d'un an après, juillet 1965, c'est au tour du charpentier Ronnie Biggs de se faire la belle en escaladant le mur d'enceinte de la prison de Wandsworth lors d'une séance de gymnastique. Biggs, personnage fantasque et provocateur, va alors devenir une vedette du crime, la vitrine du Glasgow-Londres. Pendant 36 ans, il va échapper à la police britannique. Il parvient tout d'abord à se rendre en France, caché dans un bateau. À Paris, il subit une opération de chirurgie esthétique pour modifier son visage. On le retrouve ensuite en Australie, où il fabrique des décors de cinéma et où son épouse et leurs 2 enfants l'ont rejoint. Il échappe de justesse à une arrestation et s'installe au Brésil. Dans ce pays qui n'extrade pas les étrangers, il reçoit journalistes et admirateurs dans un petit appartement de Sepetiba, se montre à la télé, vend des livres et des t-shirts à la gloire du braquage du siècle, transformant ainsi le Glasgow-Londres en un spectaculaire fond de commerce. Manque donc toujours à l'appel du Glasgow-Londres le cerveau, l'homme qui a planifié et organisé les moindres faits et gestes du commando. Il avait pris la fuite juste avant la vague d'arrestation, il va bientôt et enfin réapparaître. Scotland Yard aimerait bien mettre la main sur Bruce Reynolds, un homme qui a passé la trentaine et exerce officiellement la profession d'antiquaire. Reynolds, surnommé Napoléon depuis le braquage d'un fourgon postal sur l'aéroport d'Heathrow, est soupçonné d'être le grand architecte de l'attaque du Glasgow-Londres, la chapelle Sixtine du braquage, comme il l'appellera lui-même. Mais Reynolds est insaisissable. Après l'affaire, il a disparu de la circulation. Il est passé par Bruxelles et a pris la fuite à Mexico City avec un faux passeport au nom de Keith Clement Miller. Sa femme et son fils l'ont rejoint sur place. La famille émigre au Canada mais se fait repérer. Début 1968, 5 ans après l'attaque du train, Bruce Reynolds revient s'installer en Angleterre, au nez et à la barbe des autorités. Il a changé d'apparence et vit en famille à Torquay, dans le Devon, sous un faux nom. Celui qu'on appelait Napoléon compte bien reprendre du service, mais la police ne va pas lui en laisser le loisir. Il est arrêté le 9 novembre 1968. Il plaide immédiatement coupable dans l'affaire du Glasgow-Londres. Condamné à 25 ans de prison, Bruce Reynolds se livrera à quelques petits trafics d'amphétamines. Il mourra sans un sou en 2013. La star excentrique du braquage, Ronnie Biggs, va elle aussi connaître un pâle destin. En 2001, après 3 attaques cérébrales, il décide de quitter le Brésil pour rentrer au pays. Il contacte lui-même Scotland Yard pour obtenir un passeport. Il est aussitôt arrêté à sa descente d'avion, écroué dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Il va y rester 8 ans, c'est un vieillard recroquevillé sur un fauteuil roulant qui est libéré pour raison médicale. 2 jours avant son 80e anniversaire, il meurt 4 ans plus tard. Bruce Reynolds, le cerveau présumé, et Ronnie Biggs n'ont jamais donné les clés permettant de savoir qui avait vraiment fait quoi dans cette affaire et qui en était le véritable instigateur, peut-être un responsable de la poste britannique. Plus de 50 ans après l'attaque du train postal Glasgow-Londres, l'histoire continue de susciter questions, supputations, explications plus ou moins fantaisistes. Le personnage de l'Ulsterman, l'homme à l'accent irlandais, l'informateur à l'origine de l'affaire et qui a reçu sa part de butin, reste une silhouette en filigrane. Scotland Yard avait enquêté au sein de la poste, interrogé les responsables, informé de ce gigantesque transport de devises, des investigations qui n'avaient donné aucun résultat. L'un des membres du commando, l'ex-coiffeur Gordon Goody, reconverti en patron de bar sur la Costa del Sol, en Espagne, avait fini par donner un nom, celui de Patrick McKenna, un employé des postes irlandais travaillant à Londres au centre de courrier d'Islington. Il avait vu son nom sur un étui à lunettes qu'il avait oublié lors d'une visite de préparation du coup. Aucune preuve ne viendra corroborer cet aveu très tardif. L'argent du Glasgow-Londres n'a jamais refait surface. Les petites coupures entassées dans des sacs, essentiellement des billets de 1 et 5 livres, auraient été rapidement partagées et vite dépensées. Les numéros de billets n'étaient pour la plupart pas répertoriés. Une légende tenace dit qu'une partie du trésor est enfouie dans une forêt anglaise. Mais il ne s'agit dans cette histoire que d'une légende, une de plus.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, c'est Cindy Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.